Si c'est fait cachère, c'est cachère.
Voilà comment elle a alors.
Vous comprenez? C'est-à-dire que la question qui sera posée demain, on verra qu'il y a eu des âges.
Même sans bracha.
Même sans bracha. Actuellement, la halakha est comme ça. Okay? Mais il y a une histoire de ce problème. On a été de plus en plus tolérant à ce niveau, mais cette tolérance est un jugement méprisant sur la médiocrité dans laquelle on est. Est-ce que c'est clair? C'est parce qu'on n'est pas capable qu'on tolère. Oui, l'erreur du libéralisme, l'erreur de la religion réformée, des libéraux, une erreur profonde. Ils sont à l'envers, complètement. Ils croient que c'est un progrès d'être médiocre. Je ne sais pas si vous voyez à peu près. Bon. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, j'ai dit ça avec humour. Pour revenir à notre problème, si vous voulez, et la question est posée comme cela, je le dis en hébreu. Est-ce que mitzvot srichot kavana ou enan srichot kavana? Ça veut dire, est-ce que les mitzvot, pour être authentiques, ont besoin de cette kavana, l'accept, ou elles n'ont pas besoin de cette kavana? En fin de compte, il est bien évident que la situation idéale, c'est que les mitzvot ont besoin de cette kavana-là. Comme on n'est pas capable, on va nous demander celle-là et celle-là comme substitut de l'autre. C'est clair? Enfin, où elle était l'autre? La kavana la tête. Okay? Mais même ça, on ne nous demande plus. Sauf lorsque le comportement n'a pas de sens si je ne suis pas à ce que je fais. Vous comprenez? Si quand je parle, je pense à autre chose, j'ai pas parlé, j'ai fait du bruit. Vous voyez? Pourquoi il y a un cas particulier des rites oraux? Là, on va nous demander la kavana qui consiste à dire exactement, même si on ne comprend pas le sens intellectuel, mais en sachant que c'est ce qu'a décrit que je dis. Alors là, c'était la question tout à l'heure. Mais je ne comprends pas. Oui, toi, tu ne comprends pas, mais ta neshama comprend. C'est plus important. Et maintenant, bien sûr, l'idéal, c'est que je coïncide avec ma neshama, c'est que je comprenne. Mais ça, va y apprendre. En attendant, tu fais des gammes. Et les gammes, c'est important. En hébreu, gamme, ça veut dire aussi. Gamme. Gamme zuletova. Ça aussi, c'est du tout. Bien. Alors, en tout cas, pour revenir à notre problème, la question que la Gemara va se poser, vous allez lire dans la deuxième page. Tout de suite, au début. Et là, vous avez à ce paragraphe qui commence là, Gemara. Okay. Vous y êtes à la deuxième page. Alors, aujourd'hui, je vais me borner à vous traduire la phrase. Et réfléchissez-y jusqu'à demain, et on reprendra l'étude à ce moment précis. Alors, puisque la Gemara a entendu que la Mishnah a dit « Im kiven libo yatsa ». S'il a mis la kavana, il est yotse. Il a accompli son devoir. Vous vous rappelez du cas très particulier dont il s'agissait? Aya kore batora parashat kriyashma ve giar zman amikra zman kriyashma im kiven libo yatsa. De quel kavana s'agit-il? Voilà ce que demande la Gemara. C'est clair? La Gemara dit ceci. Elle a entendu im kiven libo yatsa. S'il a mis la kavana, il est yotse, ça veut dire qu'il a quitté son devoir. Alors c'est pas ça qu'il faisait. Il lisait dans la Torah, il proclamait pas le Shema. Mais voilà, il a mis la kavana. De quoi? Demande la Gemara. Mais avant de dire de quelle kavana il s'agit, elle a entendu cela et elle a en tête ce problème. Est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas? Voilà un cas où on nous dit que oui. Donc, je vais apprendre de ce cas, je vais en tirer par implication le principe que les mitzvot ont besoin de kavana. C'est clair? Vous voyez comment est le raisonnement? S'il a mis la kavana, il est yotse. Donc, s'il n'a pas mis, il n'est pas yotse. Donc, il faut une kavana pour être yotse. C'est clair? Alors, lisez la Gemara. Shema Amina. Apprends de là, apprends de ce cas. Deux points, mitzvot, srichot, kavana. Le principe que les mitzvot ont besoin de kavana. Je vous dis tout de suite, la halakha n'est pas comme ça. Okay? C'est une hypothèse. Mais une hypothèse sur laquelle la Gemara se jette tout de suite. Parce que c'est un grand différent entre les Amoraïm. Le moment est venu dans le développement de médiocrité de la société juive. On n'est plus capable de la kavana fondamentale, du sens que le comportement a. Alors, au moins, on va authentifier par la kavana deuxième sens, kavana latse. Mais voilà qu'on est encore plus capable de cela. Imaginez que la Torah demande, que la halakha demande, hypothèse, que pour que manger kasher, ça soit vraiment kasher, il faut que je mange en ayant à l'esprit le sens de manger kasher. Je ne mangerai plus. Vous comprenez ? Alors vous avez énormément de gens qui mangent kasher parce que ça fait juif. Rien à voir avec ce que la Torah a demandé. Hein ? La raison pour laquelle la Torah a demandé de manger kasher. Quelle est la raison pour laquelle on mange kasher ? Eh bien, parce que ça fait juif. Alors, je schématise, j'exagère, mais vous comprenez l'idée. Un juif mange kasher. Mais ce n'est pas ça que la Torah a demandé. La Torah a demandé qu'on mange comme ça et pas autrement. Et chaque détail a son sens. Est-ce que je peux avoir conscience, quand je mange, je ne sais pas moi, un gefilte fish, de ce qui fait que ce gefilte fish est kasher ? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? C'est difficile à exprimer. Je pense que vous avez attrapé l'idée. Je vais un peu éclairer le problème en prenant une... Alors donc, la halakha est très claire. Et non, les mitzvot n'ont pas besoin de kavana. L'essentiel, c'est que tu fasses ce qu'il faut, comme il faut. Si tu fais ce qu'il faut, comme il faut, alors tu as fait. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez à quel point nous sommes tombés bas. Je pense que c'est bien compris. Et alors, voilà l'exemple qui est classique dans les yeshivot. Le vendredi soir, on mange du poisson. Bon, je sais qu'il y a des communautés où on ne mange pas du poisson, mais ça s'explique, il y a des raisons pour ça. Mais en général, les juifs, le vendredi soir, mangent du poisson. Alors, quel est le taram ? Est-ce que c'est le taram de la mitzvah ou est-ce que c'est le taram du poisson ? Comment dit-je ? Quel taram ils mettent dans l'eau ? Est-ce le taram du poisson ou le taram de la mitzvah ? En général, c'est le taram du poisson. Et même on ajoute du piment. Hein. Mais, non, du pute des fiches et des carottes. Mais, vous voyez à quel point c'est difficile. Il faut être à un très haut niveau de capacité de kavana pour manger le poisson du vendredi soir, pas avec le goût du poisson, mais avec le goût de la mitzvah et le goût du poisson. C'est très difficile. Alors finalement, on a donné une grande tolérance. Mange du poisson avec le goût du poisson. L'essentiel, c'est que tu aies mangé du poisson. Vous avez compris le problème. Comme disait je ne sais plus qui, il faut aussi une boisson, parce que du poisson sans boisson, c'est du poison. Ah. Et alors, c'est pour ça qu'on dit les chaïms sur le poisson. Bien, alors voilà ce que la Gemara entend tout de suite. Shma Amina, mitzvot, srirot, kavana. Voilà, là nous avons un exemple que les mitzvot ont besoin de kavana. Et la Gemara explique sa thèse. Maïm qui vient libo, qu'est-ce qu'a voulu dire la Mishnah en disant Im qui vient libo? S'il a mis l'intention du cœur, ça voulait dire l'ikrot. S'il a mis l'intention du cœur, de lire. Okay? La Gemara objecte. Enfin, on répond à cette thèse. L'ikrot, quoi de lire? Qui met l'intention de lire, alors il y a tse. Veha kakare, hayakore, il lisait, qu'est-ce que tu me dis? Il lisait, et s'il met l'intention de lire, il y a tse. Mais voilà qu'il lisait, c'est clair? Donc, ce n'est pas cette intention. Okay. Réponse, Bakoré le Aguiar. En réalité, il s'agit de quelqu'un qui lisait pas pour lire. Et nous allons voir plusieurs commentaires. Qu'est-ce que ça veut dire lire pas pour lire? Une des explications de ce que dit la Gemara, il lisait pour corriger, pour voir s'il n'y avait pas de faute. Donc, ça devient un cas très compliqué. Enfin, trop précis. Tout ça, c'est mystérieux. Alors, l'objet de l'étude va être de comprendre de quoi il s'agit, de telle sorte de comprendre qu'en réalité, c'est un cas général, que c'est le cas général. Avant de lire, pour lire, on lit pour épeler. Mais à quelle conduite ça correspond? Alors voilà donc quelqu'un qui lisait pour épeler. Quoi? Par coïncidence, dans la Torah, Dafka, le passage de la paracha de Kriyat Shema, au moment où c'est le temps de dire Kriyat Shema, il lisait pour épeler. S'il met l'intention de lire pour lire, alors il est yotze. Vous avez compris qu'on a rien compris? Rien compris. Enfin, c'est clair jusque-là, on a un mais donc nous aurons à reprendre ça demain pour faire éclater le texte, pour comprendre qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, prenez quand même le temps de réfléchir à cela. Alors, simplement, quelques recommandations. Je voudrais bien, demain je pense que ça sera plus sérieux. Le cours commence à 10h30, je vous demande vraiment instamment d'arriver tous à 10h30, parce qu'on ne peut pas étudier par petits morceaux. Vous comprenez que ceux qui n'ont pas suivi tout le déroulement, en tout cas pour le même coup, sont perdus, seront noyés complètement. Alors à 10h30 et 1 minute, la porte sera fermée. Deuxièmement, je vais voir si il y a... pour vendredi, je vais voir cela. Et ensuite, qu'est-ce que la troisième chose que je vous disais ? Quelle ?
Si vous ne fermez la porte, il y aura une caravane
sur mitzvah. Ils auront la mitzvah d'être venus jusqu'ici. Ce sera Ralicha.
Manitou, séminaire sur le Kiddush Hashem, mardi 4 juillet 78, deuxième cours.
Que va nous poser la Gemara, c'est de savoir s'il est nécessaire qu'une mitzvah soit réalisée et qu'il y ait aussi l'intention d'avoir obéi à une mitzvah, d'avoir accompli un devoir. Je vous rappelle la formule en hébreu, nous allons la réétudier tout à l'heure. Im ha'im mitzvot srichot kavana olam olo. C'est-à-dire, est-ce que les mitzvot pourraient être réalisées authentiquement nécessite qu'il y ait kavana, intention d'avoir accompli une mitzvah, d'avoir obéi à une prescription perçue comme une obligation. Mais nous sommes aussi aperçus très rapidement que cette notion de kavana de la mitzvah, qui s'appelle en hébreu kavana latzet, Kavana latzet midechova, c'est-à-dire l'intention d'avoir dans sa conduite, dans son comportement, obéi, et il faudra d'ailleurs nuancer tous ces termes en français, obéi à une obligation, est elle-même une notion dérivée. La première signification de la kavana d'une mitzvah, c'est agir dans le sens, dans l'intention même de la prescription, c'est-à-dire... faire ce que la loi a voulu en me demandant de faire ce qu'elle me demande. C'est-à-dire obéir à l'intention de la mitzvah elle-même. Et d'accomplir dans le sens qu'a assigné la Torah elle-même lorsqu'elle m'a demandé d'accomplir tel ou tel acte. Et cela implique tous ces niveaux du premier sens de Kavana, mais cela implique en particulier une connaissance de la signification de la mitzvah, de son objectif. En hébreu, nous avons l'habitude de dire de son taram. Le mot de taram, en hébreu, signifie d'abord taram, le goût, mais signifie essentiellement la raison, le sens. Si vous voulez, au niveau spirituel, c'est exactement la même chose que le mot goût au niveau sensoriel. La signification de la mitzvah. Mais c'est surtout son objectif, la raison pour laquelle la Torah a demandé cela. Alors on a très rapidement, à travers un très long temps de l'histoire de la tradition, on a très rapidement pris acte que le plus grand nombre était incapable de cette ferveur de connaissance, d'attacher au comportement, à l'acte, à l'action, la signification que la Torah lui assigne, et se substitue un tout autre sens de kavana par rapport à la mitzvah, c'est-à-dire l'intention globale, formelle, d'agir en obéissance à la loi. Est-ce que c'est bien clair ? Je voudrais une petite parenthèse pour éclairer un peu la portée de ce changement de signification par rapport, si vous voulez, à la sanction que prévoit la Torah par rapport à la transgression éventuelle d'une mitzvah. Vous savez que dans la loi, il y a deux catégories de mitzvot. Les mitzvot qui nous demandent de faire quelque chose, qu'on appelle en hébreu mitzvot asé, et les mitzvot qui nous interdisent de faire quelque chose. C'est-à-dire, la formule serait « fais le bien, ne fais pas le mal ». Il y a donc des mitzvot qui appliquent le « fais le bien », des mitzvot qui interdisent le mal à ne pas faire. Alors, je prends le cas négatif. Si quelqu'un a transgressé une mitzvah lota asé, la Torah prévoit globalement, je schématise un peu, deux types de sanctions. Une sanction qui est toujours la même, et qui sanctionne le fait d'avoir violé un commandement quel qu'il soit, c'est-à-dire d'être en rébellion, porte-à-faux vis-à-vis de la loi. Le fait d'avoir mis en question, mis en échec, la loi comme loi, peu importe quel est le commandement, peu importe quel a été l'acte, le fait d'avoir rompu formellement le lien de souveraineté de la loi comme loi. Et un deuxième type de sanction qui, lui, correspond au contenu de l'acte. Et alors là, il y a des niveaux de gravité. Tandis que sur le fait formel d'avoir rompu le lien avec la loi, c'est toujours formellement la même sanction qui est prévue. Je ne vais pas trop entrer dans les détails, c'est simplement une incidente pour mettre en évidence pourquoi le long, si vous voulez, de l'histoire, on a pris acte que le plus grand nombre n'est plus capable de la kavana normale, primitive, originelle, agir avec le sens que l'acte doit avoir pour qu'il soit authentique, et puis on va ici substituer une kavana formelle qui s'appelle kavana latse, l'intention d'agir en tant que l'on obéit à ce que la loi a demandé. Mais je voudrais bien que ce soit clair, c'est une kavana de substitut. Or, nous sommes arrivés à un temps dans le développement de la halakha où même cette kavana de substitut va être mise en question parce que cela implique une tension de ferveur et d'authenticité vis-à-vis de la loi comme telle dont tout un chacun n'est plus capable de façon immédiate, de façon... il y aurait trop de pièges vis-à-vis de la bonne volonté. Il peut y avoir une bonne volonté mais qui n'arrive pas jusqu'au bout de sa propre intention et qui, ce sont les ruses, les stratégies de la conscience, veut bien accomplir ce que la loi demande, parce que confusément on sait bien que c'est cela qu'il faut faire, mais pas en tant que la loi le demande. Une sorte de coquetterie d'indiscipline, si vous voulez. Et alors, ça multiplierait les pièges pour le plus grand nombre. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Alors, cette introduction va nous permettre, je ne sais pas si j'étais suffisamment clair, surtout pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vois que on a des problèmes avec la serrure, mais si ce n'est pas suffisamment clair, si vous avez une question à me poser à ce sujet, sinon on pourra embrayer directement dans le thème. Enfin, très, très schématiquement. Et lorsque la Mishnah dit « Haya kore va Torah », il était en train de lire dans la Torah. Et il y a quoi? Qu'est-ce qu'il lisait? Nous l'avons déjà appris hier. La paracha du création. Vegias manamikra. Et le temps de la lecture comme rite, et non plus comme lecture simple, est arrivé. Alors, avant que le temps de la lecture n'arrive, ce n'était pas encore chova, obligation, mais dès que le temps arrive, il y a obligation. Im kiven libo, s'il a mis intention du cœur, yatsa, il a réalisé, il a accompli son devoir. Je vous avertis qu'il nous faudra toute la semaine pour arriver à élucider cette formule. Et les choses ne sont pas simples, mais on va procéder par approximation successive. Très rapidement, je vous signale une remarque supplémentaire. Au fond, qu'est-ce que cette formule de la Mishnah va instituer? C'est qu'il y a des cas, celui-là en particulier, où le comportement n'est authentique que s'il y a kavana. Et on va se demander avec la Gemara de quelle sorte de kavana la Gemara parle. La Mishnah parle. Mais vous voyez la forme détournée de l'enseignement, de la formule elle-même. Et on s'attendrait à une formule beaucoup plus directe. Je vous prends un exemple analogue d'une baraita qui se trouve dans le premier chapitre, à propos de la tfila, à propos de la prière, de la kavana pour la prière. Hamit palel tsarir shi kaven et libo. Celui qui prie, qui entreprend de prier, doit mettre intention dans sa prière. Vous voyez, la prescription porte sur la kavana. Tandis qu'ici, c'est la description d'un cas, semble-t-il, d'un cas très particulier, d'une péripétie. Et ce qui est étonnant, c'est de trouver un enseignement à propos d'un cas aussi particulier dans la formule d'une Mishnah. La Mishnah vise la généralité des cas. Est-ce que c'est clair? Surtout la récha d'une Mishnah, le début de la formule de la Mishnah. Alors on s'attendrait, par exemple, à la formule « Hakore kriyat shma tsarir sheikaven et libo ». C'est-à-dire, celui qui lit la récitation du kriyat shma doit, tous ces sens-là, faire attention, avoir l'intention, dans ce qu'il fait. Est-ce que j'étais suffisamment clair? Mais là, on nous parle d'un cas, apparemment, d'une péripétie très particulière. Quelqu'un qui lisait avant le temps où c'est obligatoire de lire, et qui lisait le passage qu'il faudra lire quand le temps arrivera de l'obligation. Et puis voilà qu'entre-temps, l'obligation arrive, le temps arrive, alors s'il avait mis intention, il a réalisé son obligation. Est-ce que tout cela est suffisamment clair? Nous pouvons envoyer dans la caméra. Si vous avez une question, posez-la tout de suite.
Si la personne considère qu'elle a quand même une obligation parce que le temps est arrivé, est-ce qu'elle peut accomplir cette obligation?
Soyez plus explicite.
Celui qui est dans le cadre dont parle la Mishnah, il l'a vu avec attention, il s'aperçoit que le temps est...
Attendez, non, il lisait... Oui. Indépendamment du fait qu'il y a une obligation qui consiste à réciter. Il lisait, comme on lit dans le livre. Et voilà que le temps où la récitation de ce même passage devient mitzvah, obligation, de voir, le temps arrive. Alors la Mishnah nous dit, s'il a mis intention, il est yotze. S'il a mis intention, il est qui? Maintenant, reposez votre question.
Oui, lui s'aperçoit du temps de l'obligation, que le temps est venu, et est-ce qu'il peut, est-ce qu'il est nécessairement obligation?
Ou est-ce qu'il a... D'après la Mishnah, s'il a mis intention, et on va se demander intention de quoi? Le cas limite, le cas idéal, lorsque nous aborderons la règle, serait le suivant. Il suffit qu'un acte soit accompli comme il doit l'être, d'après la halakha, d'après la règle, et qu'il soit accompli au temps où il faut qu'il soit accompli pour que l'acte soit authentique. Mais ici, la Mishnah introduit un facteur supplémentaire. Il faut aussi avoir intention. Et la caméra va se demander, intention de quoi? Je vais vous donner, une illustration du problème pour bien suivre l'analyse. Vous remarquerez qu'il y a énormément de comportements liturgiques, rituels, des mitzvot que nous accomplissons, et avant lesquels on dit une bracha. Asher ki deshanu bemizvota vetzivanu. Par exemple, on doit placer une mezouza. Le fait de placer une mezouza à la porte de la maison, à la porte de la chambre, est une mitzvah pour elle-même. Dès que la maison va être habitée, il y a obligation d'y mettre une mezouza. Alors, il suffirait donc de mettre la mezouza pour que l'action de mettre la mezouza soit accomplie. Non, voilà que, on va dire, une formule de bracha avant d'accomplir cet acte. Et je vous traduis la formule, qui nous a sanctifiés par ses commandements, il nous a demandé de placer une mezouza à la porte de la maison. Pourquoi faut-il cette bracha qui introduit l'accomplissement de la mezouza? Et vous voyez tout de suite que cette bracha nous met dans l'intention d'être yotze d'une mezouza. C'est-à-dire, je prends acte et je le proclame que c'est une mitzvah que je vais faire. Que ce que je vais faire vient en obéissance, en accomplissement de ce qui est demandé par la loi. Et ceci nous fait comprendre le sens de substitut de cette kavana latzet. Étant donné que je ne sais pas, que je ne comprends pas jusqu'au bout, chacun a le niveau de connaissance qu'il a, ce que signifie ce fait de mettre la mezouza sur une maison, alors je substitue cette kavana qui m'est devenue inaccessible par manque de connaissance, et là il y a une relativité de niveau de connaissance, or la règle doit être donnée pour tous. Vous comprenez? Alors on va y substituer la kavana latzet mina mitzvah. Mais notre problème c'est de savoir si quelqu'un a mis une mezouza sans dire la bracha, c'est-à-dire sans prendre acte que ce qu'il fait c'est l'obéissance à une obligation, est-ce qu'il a accompli le fait de mettre la mezouza ou pas? C'est cette discussion que nous allons aborder. Je vous donne à l'avance la ligne de solution du problème. Il y a des comportements qui n'existent même pas comme acte s'il n'y a pas prise de conscience de ce que l'on est en train de faire. En particulier, tous les actes qui sont des paroles. Si je dis quelque chose sans prendre conscience de ce que je dis, est-ce que j'ai dit? Et donc, en général, le rite oral implique la bracha qui l'introduit. Est-ce que c'est suffisamment clair?
Non. Pourquoi ne pas recommencer
Pardon?
pourquoi ne pas recommencer, faire la
Kiddushin? Justement, ah oui, très bien. Très bien. Vous revenez à la question par laquelle j'ai commencé. Pourquoi la Mishnah ne dit pas, a priori, celui qui doit dire le Kriyat Shema doit mettre la Kavana? Okay. Et bon, vous voyez que nous avons choisi ici une Mishnah qui apparemment était très simple, qui en réalité nous apparaît très rapidement, au bout d'un cours déjà quand même, extrêmement difficile. Qu'est-ce que cherche la Torah ici à nous transmettre, à nous enseigner comme message? Oui.
Que le fait de prononcer cette bénédiction fait qu'il y a un témoin, il y a quelqu'un qui entend et qui répond aussi en disant Amen. C'est un témoignage.
Même s'il n'y a personne, je suis moi-même le témoin de ce que je fais. C'est-à-dire, bien entendu, il est préférable qu'il y ait quelqu'un pour répondre Amen. Et alors, le rite a toute son extension. Mais même si je suis seul, je dois prendre conscience que l'acte que je veux faire est l'obéissance à quelque chose qui m'est demandé par la loi. Mais tout le débat, et vous voyez, nous sommes à une période très, très ultérieure de l'histoire de ce problème. Tout le débat va consister en ceci. Est-ce que même cette kavana de substitut, prendre conscience que j'obéis à la Torah, et c'est la Torah elle qui sait ce qu'elle m'a demandé. Vous voyez, il y a là une attitude d'humilité qui est peut-être d'un certain côté beaucoup plus haut que le mérite de celui qui sait ce qu'il fait. Et je vous ouvre une petite parenthèse pour éclairer ce point. Il y a, quelqu'un m'a posé la question hier, je ne me souviens plus, je crois que c'est vous. Il y a une dilution de l'envergure à travers le temps. Mais peut-être que cela nous met à un niveau d'humilité dont le mérite est peut-être beaucoup plus haut que celui qui a connaissance de ce qu'il fait. Le fait d'accomplir en adhérant a priori est peut-être plus grand que d'accomplir en adhérant a posteriori de la connaissance. Et j'entends bien qu'il y a là un paradoxe. C'est très chassidique. Et effectivement, je me souviens des premières paroles de l'Ikoutei Amarim, du Rav de Mezrich, qui commence par parler dans son premier chapitre de la mitzvah qui consiste à étudier la Torah pour accéder à la sagesse de la Torah telle que Dieu nous l'a demandé. Et il commence par ironiser. Il nous dit, vous croyez, vous les hommes, que vous allez comprendre la Torah comme Dieu l'a donnée. Et vous voyez à peu près cette attitude d'humilité a priori. Alors il raconte à un apologue, il nous dit à quoi ça ressemble. Et il donne l'exemple d'un homme qui élève un singe. Et cet homme est très content quand le singe imite les actions humaines. Et il en a contentement. Il disait la même chose. Dieu nous a donné sa Torah, il est très content quand nous imitons en tant qu'homme ce qu'est la Torah de Dieu en tant que Dieu. Mais ça veut dire très, très, avec beaucoup d'humour, nous ne sommes que des singes. Par rapport à plus. Il y a un peu de cela. Et je comprends très bien le paradoxe que cela implique. Il y a un commandement de comprendre ce que la Torah a demandé dans le sens de l'intention qu'elle demande. Il y a d'autre part une vertu, et on a des motifs par ailleurs, mais à adhérer à ce que la Torah demande, a priori même de toute cette connaissance. Apparemment, nous sommes très bas en niveau de connaissance, mais peut-être très haut en niveau de vertu. Et à propos de ce que vous avez dit tout à l'heure, la Gemara dit, plus grand est celui qui répond Amen à la bracha que celui qui a dit la bracha. Parce que le mot de Amen, qu'est-ce que ça signifie en hébreu? Qui a dit je crois? En hébreu. Amen, peut-être en français, ça veut dire je crois. C'est un mot qui est passé en français à travers le latin. Non, les ha-amin.
C'est Aleph, Nun et Nun qui sont trois qualificatifs de Dieu.
Ça aussi, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est trois qualifiés.
Oui.
Ma?
Emouna.
Emet, c'est vérité. Emouna, c'est adhésion. Cette racine, Aleph, Mem, Nun, signifie adhérer. Et lorsque la formule à laquelle on adhère est un souhait, alors ça signifie ainsi soit-il. Mais Amen, ça ne veut pas dire ainsi soit-il. La preuve, c'est qu'on ajoute ainsi soit-il Amen. Mais Amen, ça veut dire j'adhère. Au niveau de intellectuel, ça veut dire je crois. Mais c'est dérivé déjà. C'est second comme sens. C'est clair? Vous avez vérifié ça comme ça. Il y a une racine qui ressemble beaucoup, avec les mêmes lettres, mais dans un autre ordre. Man. Néhéman, c'est l'adjectif de Amen. Néhéman, ça veut dire quelqu'un à qui on peut faire confiance. Néhéman, fidèle. Okay? Non, ça c'est l'artisan. Oman. Maen, qu'est-ce que ça veut dire? Les Maen.
Refuser.
Refuser, oui, c'est juste le contraire. Amen, c'est adhérer. Maen, c'est repousser. Refuser. De quoi parlions-nous?
Celui qui répond Amen.
Oui, celui qui répond Amen est plus grand. Parce qu'il y a là, si vous voulez, l'adhésion a priori de la connaissance, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des motifs de l'adhésion. Mais ils ne sont pas la connaissance. Est-ce que c'est clair? Il y a une vertu de la Emouna pour elle-même qui consiste à adhérer. Et alors là, je voudrais être très précis. Et il faut évacuer la formule latine. Credo qui a absurdum est. Pas parce que c'est absurde, ça n'a rien à voir. Il est évident que ce n'est pas absurde, ce à quoi j'adhère. Ce n'est pas parce que j'ai une tendance à adhérer qu'il faut que j'adhère à n'importe quoi. Je pense que c'est bien clair. C'est la formule jésuite. Je crois parce que c'est absurde. Ça, c'est l'humour jésuite. Alors, plus c'est absurde, plus je crois. Non, c'est pas ça. Mais c'est, je crois, a priori de la connaissance que je n'ai pas. Mais j'ai des motifs de l'adhésion, j'ai des preuves que cette connaissance est la vérité, même si je ne la possède pas par science intellectuelle. Et ça veut dire que je ne la possède pas encore. Ça n'enlève en rien à l'obligation de gravir tous ces degrés qui nous feront passer de l'état de singe à l'état d'homme, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous comprenez ce que je veux dire? Là, il y a un paradoxe, et bien, bien évident, c'est très chassidique, c'est que peut-être est plus grand celui qui adhère a priori ou en dehors de la connaissance qu'il peut avoir que celui qui adhère a posteriori de la connaissance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des motifs de l'adhésion, des mobiles de l'adhésion. Est-ce que c'est bien clair? Je voulais ajouter une précision, dire que la... Bon, ça m'a échappé, ça me reviendra peut-être, mais bien pour éclairer cela. Si vous voulez, le comportement de l'adhésion a une vertu pour elle-même, et c'est la vertu de la Emouna, et c'est gratuit, puisqu'il n'y a pas connaissance lucide, élucidée, mais ce n'est pas arbitraire. Voilà, c'est le terme que je cherche. La relation à l'objet de la Emouna en aucun cas ne peut être arbitraire. Il y a une différence entre celui qui étudie la Torah pour dire comment il faut l'appliquer, et celui-là ne peut dire comment il faut l'appliquer parce qu'il a la connaissance de la Kavana première manière, et celui qui étudie la Torah pour savoir comment l'appliquer, celui-là, pour ce deuxième cas, il n'est pas nécessaire qu'il ait a priori cette connaissance, mais il a adhésion à une connaissance qui sait exister d'autre part. Il a ce que l'on appelle Emunat Hachamim. Il a adhésion à la connaissance dont dispose le Talmid Chacham qui a dit comment appliquer la prescription de la Torah. Est-ce que c'est bien clair? Comprenez bien cette distinction. L'étude pour enseigner et l'étude pour apprendre n'est pas la même étude. Et enseigner et apprendre, dans le jargon des écoles juives, ça a fini par dire la même chose. Okay? On dit que quelqu'un apprend quelque chose à quelqu'un d'autre ou que quelqu'un apprend quelque chose de quelqu'un d'autre. En hébreu, il y a deux mots. L'ilmod ou l'lamed. Apprendre en vue d'enseigner, l'ilmod. L'lamed. Okay? Apprendre en vue d'apprendre, ça c'est l'ilmod. Est-ce que c'est clair? Vous avez dans la bracha du Kriyat Shema, l'ilmod ou l'lamed, l'ishmo ou l'kayem et l'arasot. L'arasot ou l'kayem. Alors là, il y a une différence. Celui qui étudie en vue de devenir celui qui va dire ce que la Torah dit, celui-là doit étudier avec la connaissance du sens. Mais celui qui étudie en vue de savoir comment appliquer ce que la Torah dit, pour celui-là, la connaissance du sens a priori n'est pas nécessaire, quoique reste l'objectif, le commandement, la visée de cette connaissance. Mais l'acte est plus urgent que le connaître. L'agir est plus urgent que le connaître. Il est urgent que je cherche comment faire avant de savoir pourquoi je le fais. Et encore, je me suis mal exprimé, parce que dans les motifs de l'adhésion, il y a aussi le pourquoi. Mais vous avez compris qu'il s'agit là d'une connaissance de portée différente. Et rappelez-moi pourquoi nous avions parlé de l'Aïmouna.
À cause de
Amen. Oui, d'accord, mais comment nous sommes arrivés? Qu'est-ce qui nous a amené à cela?
La bracha.
À la Kavana. Bien. Alors, je relis la formule de la Mishnah. Haya Kore Batora. C'est le cas de quelqu'un qui était en train de lire comme on lit dans la Torah. L'Egiya Manavitsa. Et arrive le temps de la lecture-récitation, de la lecture-proclamation, du rite du Kriyat Shema. Avant ce temps, il n'y avait pas obligation. Mais voilà que le temps de l'obligation arrive. Im kiben libo yatsa, s'il a mis l'intention, de quoi on ne sait pas encore. L'intention du cœur, de quoi yatsa, il a accompli son devoir. Vous voyez que j'ai lu de telle sorte d'introduire la première proposition de la Gemara, il doit s'agir de l'intention de s'acquitter d'un devoir. Kavana la tête. Vous voyez comment est le raisonnement? S'il a mis l'intention, il est quitte, donc c'est l'intention d'être quitte. Quoique j'aime pas du tout cette expression qu'on a en emploi habituellement en français, être quitte d'un devoir, comme s'il fallait s'en débarrasser. Exactement. Bon, mais j'ai employé provisoirement les termes français qu'on a l'habitude d'employer, mais rappelez-vous l'analyse d'hier, qui est extrêmement importante. Tant que j'ai pas accompli une obligation, je suis d'une certaine manière en culpabilité innocente de ne pas avoir déjà accompli. Mais il n'y a pas faute, il y a, je ne sais pas s'il existe un terme en français pour dire ça. Faute suspendue, vous voulez dire. Et il y a risque de faute. Vous vous rappelez de l'expression « hayav mita » on se met en risque de bitulzman, qui est « mita » par... définition. Alors, abordons maintenant dans la deuxième page. Je ne vais pas sous les yeux, mais peut-être que quelqu'un. Au début de la Gemara. Je vais vous mettre le texte au tableau pour que nous puissions bien le décomposer. Alors, vous avez premièrement. L'expression Shema Amina, Midot, Srichot, Kavana. C'est la première proposition. C'est-à-dire, c'est la thèse, la Hanaha, que la Gemara va établir comme première implication de ce qu'on a entendu de la Mishnah. Je traduis, apprends de là, Shema Amina, deux points. La proposition suivante, mitzvot, trichot, kavana. Les mitzvot nécessitent une kavana pour être accomplies authentiquement. Nous sommes très tard dans le développement, l'histoire du développement de ce problème. De quelle kavana? La dernière dont on a parlé. Kavana, la tzet. Okay? Qu'est-ce qui nous mène à traduire comme ça? C'est la Mishnah elle-même. Im ki ven libo yatsa. Donc il s'agit de kavana, la tzet. Mais c'est très formel encore. Simplement, ça nous donne un premier point d'appui. C'est clair pour tout le monde? Alors, je vais maintenant, pendant la première demi-heure au moins, lire ce texte, la suite immédiate, comme on a l'habitude de le lire. Et nous verrons que ça nous mène à une impasse. Alors on oubliera tout ce qu'on aura appris, et on aura une deuxième lecture qui a pour objet de résoudre la difficulté. Alors accrochez-vous bien parce que...
Okay. Dans la suite logique de la Mishnah. Il est en train de lire, et puis il y a ce manamika, c'est-à-dire qu'il est arrivé le temps de faire le schéma. Mais ce n'est pas par le schéma qu'il va commencer la fila.
Il faut les brachot. Il faut les brachot.
Oui, il faut les brachot.
Tosvot va signaler la question, on va voir Tosvot tout à l'heure. Mais voilà, c'est le cas très particulier de quelqu'un qui lisait dans le Sefer Torah. Qu'est-ce que fait un juif? Il lit dans le Sefer Torah. Bon. Vous voyez, je commence à généraliser. Et puis, il lit dans le Sefer Torah, je vais dire, par coïncidence, la paracha de Kriyat Shema, quelques minutes avant le temps où on doit dire Kriyat Shema comme rite, mikra. Okay? Et voilà que le temps arrive pendant qu'il lisait. Alors la Mishnah nous dit une chose qu'on n'a pas encore élucidée, « In kiven libo », s'il met l'intention du cœur, mais ça peut être traduit autrement, s'il avait mis l'intention du cœur, « kiven », ça peut être un présent, ça peut être un passé. Là, c'est une difficulté supplémentaire que je vous annonce déjà. « Yatsa, il est qui ?» Alors, nous avons plusieurs mystères, si j'ose dire, plusieurs mystères à élucider. De quel kavana s'agit-il, okay? Et puis, de comprendre de quel cas s'agit-il, quelle est la situation concrète que cette Mishnah veut vivre. Vous verrez qu'à la fin, lorsqu'on avancera dans l'étude, vous aurez des surprises. En réalité, la Mishnah ne parle pas du tout d'un cas aussi particulier qu'on pourrait le croire. Elle parle du cas général du peuple juif occupé à lire sa Torah. Et par le biais de ce thème très général, nous allons apprendre un principe du comportement liturgique très important. Et concernant ce débat, est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana ou pas? Mais j'ai déjà indiqué suffisamment hier que cette tolérance n'est pas du tout un progrès. Et dans le sens, que l'on a évolué dans la ferveur religieuse, de passer de plus en plus de l'intention à l'intention, mais au contraire, cela désigne une incapacité d'être conscient de ce que l'on fait. Alors on nous propose une kavana de substitut. Mais même cette kavana de substitut, elle ne peut plus nous être imposée dans la règle pour le plus grand nombre. Bien entendu que, au fur et à mesure qu'on élève dans les niveaux de capacité de piété, il faudra remonter jusqu'à la kavana. Qu'est-ce que la Torah a demandé dans son sens, de telle sorte que j'ai vraiment accompli ce que j'avais accompli.
Même une fois qu'il aura fait les brachot, il arrivera quand même au Kriyat Shema. Alors il va sauter le Kriyat Shema parce qu'il a été béni pour...
Non, il ne s'agit pas de sauter. Attendez, je vous ai oublié une chose. Bon, on retrouve la Gemara. Shema mina mitvot richot kavan. Et vous vous rappelez que, comment j'ai introduit le problème hier, il y a un débat chez les Amoraïm, donc les maîtres de la Gemara, est-ce que les mitzvot ont besoin de kavana pour être accomplis ou pas? Quel kavana? Kavana la tzet, la dernière. Okay? Et c'est ainsi que Rashi va embrayer d'ailleurs dans son commentaire. Et puis voilà qu'on entend une Mishnah. Im kiven libo yatsa, miklal de im lo kiven lo yatsa. Donc, proposition, de là, de cette Mishnah, je vais apprendre que les mitzvot ont besoin de kavana. Nous avons là un cas particulier qui semble tranché dans le débat. Je vous ai dit à l'avance que cela ne peut pas trancher dans le débat, sinon pour les comportements qui n'existent comme comportement que si on y fait attention, c'est-à-dire les comportements de parole. S'il s'agit d'un acte avec les mains, avec les pieds, avec le corps, ça n'entre pas dans ce cas. Mais nous verrons plus tard qu'il y a une autre raison beaucoup plus profonde pour laquelle on ne peut pas trancher à partir de cette Mishnah. Mais dans tous les cas, si on pouvait trancher, ce ne serait que pour un acte qui est un son. Un son n'a de sens que si je mets attention. Sinon, c'est un bruit. Vous voyez à peu près le problème. Rappelez-vous d'ailleurs, on va rencontrer le cas du chauffard à Rosh Hashanah qu'avait cité Rabba dans le commentaire de Rashi. Alors, je vous ai donc averti, nous allons lire comme la lecture classique. Nous verrons qu'elle nous mène à une impasse et nous aurons à l'effacer et à relire de façon plus simple pour pouvoir comprendre plus profondément. Et alors voilà, donc dans cette première lecture, il y a une objection. Shema mina mitzvot srichot kavana, ça veut dire apprendre de là que les mitzvot ont besoin de kavana, d'accomplissement, la tzeh, pour être réalisé. La Gemara objecte. Dis non, tu as mal lu la Mishnah. Mai im kiven libo. Dikrot. Oui, donc là il y a affirmation. Les mitzvot ont besoin de kavana, c'est ce qu'on aurait appris de la Mishnah. Objection de la Gemara. Kavana l'accepte? Pas du tout. La Mishnah demande autre chose. Maïn kevenevo, qu'est-ce qu'elle a voulu dire en disant s'il a mis l'intention du cœur, l'ikrot, de lire. C'est l'intention de lire. Re-objection de la Gemara contre l'objection, l'ikrot. De lire, tu me dis, veha kakare. Mais voilà qui lisait. Vous suivez? Comment tu peux dire qu'il s'agit de l'intention de lire? Mais il lisait, puisqu'il y a écrit dans la Mishnah, Hayakore, il lisait. Alors il ne s'agit pas d'ajouter une intention de lire. Il lisait déjà, donc c'est une autre intention. Alors ça serait donc ce que j'ai dit, l'intention d'être Yotze, et pas du tout. C'était quelqu'un qui lisait sans lire. Réponse? Vous suivez dans le texte? Bekore. Léhagia, mais Koré Léhagia, Karaskina, sous-entendu. Ça veut dire, nous nous occupons du cas de quelqu'un qui lisait, pas pour lire, pour corriger le texte. Quelqu'un qui est en train de corriger. Prenons un correcteur d'imprimerie. Il corrige un texte en se référant à un modèle. Là, il faut Aleph, là, il faut Bet, là, il faut Gimel. Il lit pas, il épelle. Léhagia. C'est clair? Alors là, nous arrivons à un cas vraiment très particulier. C'est quelqu'un. Je prends le cas classique de l'explication. Un sofer. C'est que c'est un sofer. Quelqu'un qui copie le Sefer Torah. Voilà donc quelqu'un dont le métier est d'être sofer. Et puis que par coïncidence extrême, il est en train de lire sans lire pour corriger la paracha du Kriyat Shema au moment où subitement arrive le temps de faire la mitzvah du Kriyat Shema. Alors la Mishnah dit, s'il a mis l'intention... Il est yotze. Bon, c'est un cas vraiment très particulier. Alors il faudra étudier jusqu'à comprendre en quoi ce cas apparemment en particulier est le modèle du cas général de la relation entre Israël et la Torah. Voilà, c'est la première lecture. Alors nous allons la lire, la vérifier avec Rashi. Alors vous prenez Rashi dans la marge. Vous avez ici, dans la marge intérieure, Rashi, nous allons le lire attentivement pendant quelques instants. Vous suivez ensemble. Shmar mina mitzvot.